La compensation du handicap évolue grâce à un décret.
Le sujet est complexe mais crucial pour des milliers de familles concernées en France. Un décret d'avril 2022 prévoit un élargissement de la PCH, prestation de compensation du handicap, aux personnes atteintes de troubles psychiques. Celle-ci n'était pas mentionnée en 2005 dans la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ce temps fort était une avancée considérable à l'époque, mais incomplète. Depuis le 1er janvier de cette année, ce décret très attendu répare cette injustice et confère aux maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, l'application de ces mesures. Des associations, médecins et scientifiques ont travaillé plusieurs années durant pour que la PCH comprenne enfin les handicaps psychiques. Parmi ces associations et en première ligne, l'UNAFAM et sa vice-présidente nationale, Roselyne Touroud. Une belle victoire pour les malades et leurs familles, dont elle fait l'annonce et la promotion dans tout l'Hexagone. De passage dans les Alpes de Haute-Provence, où elle a été accueillie par la déléguée départementale Muriel Rochas, elle a animé une rencontre avec les institutions, professionnels et familles, afin de faire connaître ce droit essentiel. Répondant à mes questions, elle rappelle le long combat qu'elle a mené pour finaliser ce décret. Roselyne Touroud, vous avez annoncé, et vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence pour le faire savoir, qu'un décret au 1er janvier 2023 change la donne en ce qui concerne la prestation de compensation au handicap.
Oui, effectivement, c'est un décret extrêmement important et très attendu depuis de nombreuses années, depuis 2005 en vérité, par tout un public qui jusque-là était exclu, ne pouvait pas accéder à cette aide financière départementale. Donc la prestation de compensation du handicap, c'est une aide financière qui a été créée par la loi du 11 février 2005, qui est dite loi handicap, ou encore son titre exact, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et c'est une aide financière départementale, donc, qui est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés au handicap de la personne. Alors, cette prestation est accordée par la Maison départementale des personnes handicapées, mais pour pouvoir y accéder, il faut remplir certaines conditions, et des conditions qui sont inscrites dans un texte réglementaire qu'on appelle le référentiel d'accès à la prestation de compensation du handicap. Ce texte réglementaire, donc un décret, a été écrit en 2005, mais il avait été écrit pour prendre en compte essentiellement les difficultés que rencontrent des personnes qui sont en situation de handicap suite à des problèmes physiques ou sensoriels, c'est-à-dire le handicap moteur et les personnes qui sont malentendantes ou malvoyantes, mais qui prenaient très à la marge les autres types de handicap, notamment les situations de handicap liées à ce que l'on appelle des altérations des fonctions mentales. Comme on est en France, on dit mental, cognitive ou psychique. De fait, depuis 2006 que cette prestation est mise en œuvre, eh bien, il y avait tout un public de personnes handicapées en France qui n'y avaient pas accès. Alors, ces personnes-là avaient des besoins, puisque cette prestation est très importante, elle comprend 5 éléments, c'est-à-dire qu'elle va répondre à 5 types de besoins. C'est une aide financière, je rappelle, hein, c'est de l'argent qu'on va donner à la personne pour des besoins préalablement identifiés qui peuvent correspondre à 5 besoins. Par exemple, vous avez le premier, c'est le besoin d'aide humaine. Une personne aura besoin de soutien, d'une aide humaine, soit pour son domicile, sa vie quotidienne, pour l'aider dans sa vie quotidienne, soit pour se déplacer à l'extérieur, pour aller faire ses courses, pour pouvoir aller à la piscine, à une activité sportive, culturelle, bref, pour vivre en quelque sorte. Ça, c'est l'élément 1, aide humaine. Le deuxième élément, c'est les aides techniques. Troisième élément, ça concerne l'aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts liés au transport. Ensuite, il y a tout ce qui concerne les charges que l'on appelle spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap. Et enfin, l'attribution et l'entretien des aides animalières. Ce sont essentiellement les chiens pour les personnes aveugles ou encore les chiens d'assistance. Dans le champ, par exemple, du handicap psychique, comme des autres personnes concernées par des altérations de fonction mentale, l'élément le plus important, c'est l'élément aide humaine, parce que ces personnes, souvent, justement, ont des difficultés à fonctionner dans leur quotidien, dans leur vie sociale et ont besoin de soutien. d'aide humaine. Or, l'accès à cette aide humaine était extrêmement difficile, voire quasiment impossible, pour toute une catégorie de nos concitoyens, du fait de l'inadaptation de ce texte réglementaire.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, ce sont d'une part les critères d'accès à cette prestation de compensation du handicap, qui intègrent enfin ce qu'on appelle certaines altérations de fonction mentale, c'est-à-dire certains dysfonctionnements du cerveau humain qui vont conduire la personne à rencontrer un certain nombre de difficultés à fonctionner dans son quotidien. Difficultés, par exemple, de l'ordre des troubles de l'attention, de la mémoire, de l'organisation, de la prévision, la capacité à faire des choix, à s'organiser dans sa vie, à planifier, à gérer le temps des activités. Bref, tout un tas de troubles, de dysfonctionnements qui font que la personne va rencontrer beaucoup de difficultés. Tout cela n'était pas pris en compte auparavant dans les critères d'accès à la PCH. Dorénavant, c'est pris en compte. Ce qui a changé également, c'est que l'accès à l'élément aide humaine était quasiment impossible parce qu'il était jusqu'alors réservé aux personnes qui n'arrivaient pas à faire seules leur toilette ou à porter seules la cuillère à la bouche des aliments préparés ou à enfiler des vêtements. Vous voyez bien que c'est extrêmement restrictif. Il y a tout un tas de gens qui arrivent à faire ces actes élémentaires de la vie quotidienne mais qui pour autant ont besoin quand même d'aide humaine pour réaliser des activités parce qu'elles ont d'autres difficultés qui sont liées à autre chose, à d'autres troubles qu'on appelle les troubles cognitifs. Donc tout ça s'est intégré. Mais beaucoup plus important encore, c'est que le décret qui est mis en œuvre au 1er janvier 2023 élargit également ce que l'on appelle les domaines d'aide humaine. C'est-à-dire que là, on ne va plus non seulement apporter de l'aide à une personne pour qu'elle puisse faire sa toilette, qu'elle puisse manger des aliments qui ont déjà été préparés, ou encore un autre type d'aide qui existait depuis 2005, c'est le fait de surveiller une personne qui peut se mettre en danger parce qu'elle a des graves troubles du comportement. Mais là, on introduit un nouveau domaine d'aide humaine qui s'appelle le soutien à l'autonomie. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un type d'aide, on va aider la personne à acquérir des compétences, des apprentissages, à gagner en pouvoir d'agir, c'est-à-dire à pouvoir réaliser des activités, apprendre à faire un tas de choses, à s'organiser dans sa vie, à pouvoir préparer son repas, à faire sa liste de courses, à aller faire ses courses, à pouvoir vraiment gagner en autonomie. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'on envisage dorénavant la vie de cette personne dans tous les actes qui seront nécessaires, pour elle évidemment, pour pouvoir vivre dans un logement, pour pouvoir se déplacer à l'extérieur de son logement, interagir avec autrui, participer à la vie sociale, à la vie de la communauté. C'est-à-dire vraiment, on envisage la personne en situation de handicap comme tout autre citoyen ordinaire. Et ce soutien, grâce à cette aide financière, doit lui permettre de recouvrer ses capacités à exercer ses rôles de citoyen. Donc vous voyez, on élargit considérablement la vision de la vie de la personne en situation de handicap.
Roselyne Touroud, en tant que vice-présidente de l'UNAFAM, vous avez participé grandement à la rédaction de ce décret. Ça a été un combat pour vous ou ça s'est passé comme une lettre à la poste ?
Non, alors tout ce qui concerne, vous savez, les droits liés au handicap et l'accès aux droits, et l'accès aux droits fondamentaux des personnes en situation de handicap, c'est toujours un très long combat, très très long. Pour nous, à l'UNAFAM, et c'est la même chose d'ailleurs pour les trois autres associations qui ont contribué à nos travaux et qui représentent des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou avec un trouble du neurodéveloppement, eh bien c'est la même chose. Les combats sont toujours très 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 longs. Bon, nous personnellement, enfin moi personnellement à l'UNAFAM, je suis référente handicap depuis très longtemps et je mène ce combat, je peux dire, depuis 2006, puisque la prestation de compensation du handicap a été créée par la loi de 2005. Dans la loi, il est dit que c'est donc une prestation, une aide financière qui est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés au handicap. C'est le droit à compensation du handicap, c'est-à-dire le droit pour une personne en situation de handicap au titre de la solidarité nationale, qui est également un droit inscrit dans la loi de 2005, d'accéder aux aides de toute nature qui lui permettront d'évoluer dans son environnement. Ça, c'est le droit à compensation. Et le droit à compensation dans la loi dit que ce droit s'applique à toute personne en situation de handicap, quelle que soit la déficience à l'origine du handicap. Mais ensuite, là où le problème arrive, c'est dans la déclinaison de la loi, dans les décrets. Parce que les décrets d'application, après, n'appliquent pas forcément ce principe général d'équité. Et donc, c'est là que l'on voit apparaître des problèmes. Quand toutes les situations de handicap ne sont pas balayées, quand tout n'est pas pris en compte véritablement, on peut aboutir à avoir un décret, un texte réglementaire, qui en lui-même va porter les germes de la discrimination. Et c'était le cas pour ce fameux décret qui est devenu l'annexe 2.5 du Code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire le référentiel d'accès à la prestation de compensation du handicap. Parce qu'il réservait finalement cette aide financière à une catégorie de personnes en situation de handicap et il en excluait une autre partie. Et ça, ça n'est pas tolérable, puisque le principe d'égalité et d'équité de traitement est inscrit dans la loi. Et donc, il fallait effectivement rectifier cette discrimination, mettre un terme à cette discrimination. Il fallait donc, de fait, écrire un nouveau décret pour adapter ce référentiel d'accès et pouvoir inclure les personnes qui jusqu'alors en étaient exclues. Donc vous voyez bien que c'est un combat en réalité qui date depuis 2006 où on a commencé à dresser les constats, à constater dans les départements que un grand nombre, par exemple pour nous à l'UNAFAM, que la quasi-totalité des personnes qui demandaient la prestation de compensation du handicap pour obtenir cette aide financière et pouvoir rémunérer des aides à domicile et des aides humaines qui les aideraient aussi à participer à la vie en société, à se déplacer, eh bien que nos proches étaient déclarés non éligibles et qu'il n'y avait pas accès. Mais une fois que cela est fait, mais après c'est le début du combat qui commence. Parce qu'après, il faut argumenter. Et il a fallu qu'on mène en plus ce combat et on a participé aux travaux avec des scientifiques, bien évidemment, qui nous ont amenés à analyser le texte pour voir qu'est-ce qui manquait dans ce texte réglementaire d'origine, qu'est-ce qui manquait et qui faisait que nos proches étaient déclarés non éligibles. Et qu'est-ce qu'il fallait rajouter pour que finalement cette discrimination disparaisse. Donc ce sont les travaux scientifiques que nous avons menés, enfin avec des scientifiques bien évidemment, on n'a pas mené ça tout seul nous, association. C'est les travaux qui ont été lancés par le président de la République à la Conférence nationale du handicap de 2020. Nous les avons conduits pendant 2 ans en interassociatif avec des scientifiques. Nous avons rédigé notre rapport interassociatif et publié le résultat de tous ces travaux-là avec une proposition de rédaction d'un décret qui viendrait modifier le référentiel d'origine de 2005. C'est donc ce qui a été fait. Ensuite, nous avons longuement échangé avec le ministère, bien évidemment, hein, qui est chargé, et l'administration centrale et la CNSA, pour aboutir à la rédaction du décret qui a été publié, in fine, le 19 avril 2022 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023. Vous voyez, c'est un long combat. Mais ça, dans le champ du handicap, on a l'habitude. Les combats sont toujours extrêmement longs. Il faut qu'on ait de l'endurance, de la pugnacité, qu'on soit un peu coriace. Il faut aussi qu'on soit, entre guillemets, très professionnel. C'est pas parce que nous sommes bénévoles associatifs que nous ne sommes pas professionnels. Bénévoles, ça veut dire que nous ne sommes pas salariés, mais nous avons la rigueur et nous nous professionnalisons en quelque sorte et nous travaillons avec cette rigueur scientifique et en partenariat toujours, nous ne travaillons jamais seuls. Et en partenariat, ça fait des années par exemple que nous, nos associations, nous travaillons avec tout un groupe de neuroscientifiques, de scientifiques de tous bords dans ce champ-là, des altérations de ce qu'on appelle les fonctions mentales, c'est-à-dire le fonctionnement de notre cerveau humain. Et donc, nous capitalisons un certain savoir. Nous avons capitalisé depuis, moi personnellement, je travaille par exemple avec le professeur Passerieux ou avec l'équipe du professeur Proto depuis les années 2010 ou même peut-être avant. Donc vous voyez, c'est tout ce savoir qui est capitalisé au fil des ans et qui, à un moment donné, va permettre justement d'aboutir, d'avancer et d'obtenir des avancées, qui vont être des avancées considérables. Et quand je dis que c'est un décret, évidemment, vous allez me dire, un décret, c'est un texte réglementaire. Oui, mais sauf que ce décret-là, nous avons travaillé maintenant, depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui encore. C'est pour ça que je viens ici aussi, d'ailleurs, dans ce beau département. C'est également pour contribuer à mettre en œuvre ce décret dans les départements. Parce que un décret, c'est comme un texte de loi, ça ne doit pas rester une lettre morte. Ce sont les acteurs de terrain ensuite qui vont le décliner. Parce que qu'est-ce que ça va donner ? Ça va changer concrètement la vie en France de milliers de gens qui enfin vont accéder à cette aide financière qui leur permettra de rémunérer soit une personne en emploi direct, soit de faire appel à un service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc d'avoir cette aide absolument indispensable dans leur parcours de vie. Et non seulement ça va être un soutien, une aide inestimable pour les personnes en situation de handicap, mais ça va être aussi une aide considérable pour les familles. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier, c'est que quand il n'y a pas de réponse aux besoins des personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées vieillissantes, bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est souvent, quand c'est possible, quand la famille est là et qu'elle peut le faire, eh bien c'est la famille qui pallie les carences. Et c'est la famille qui assume seule l'accompagnement, le soutien de ses proches. Et parfois jusqu'à l'épuisement. Nous, c'est ce qu'on voit à l'UNAFAM, quand on voit le baromètre des aidants, le baromètre de l'UNAFAM, qu'on publie chaque année, c'est très impressionnant. Parce que nos milliers d'adhérents qui répondent à ce baromètre chaque année, par exemple, à 75% nous disent qu'aujourd'hui, ils sont seuls à assumer l'accompagnement de leurs proches. Proches, évidemment, qui vieillissent, nous qui vieillissons. Donc, vous voyez, ce décret-là, en quelque sorte, il faut le voir comme un changement dans le quotidien de milliers, de milliers, de milliers de personnes et de familles. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça que les journées de sensibilisation et de formation que je fais actuellement à travers la France, grâce évidemment à l'appui de nos délégations départementales de l'UNAFAM qui organisent ces journées et qui invitent tous les acteurs concernés. Parce que quand on parle de la mise en œuvre de ce décret, il faut bien considérer que ça va mobiliser un nombre considérable d'acteurs sur le territoire. Parce que ça va mobiliser tous les acteurs qui vont aider, accompagner les personnes à faire leur demande à la MDPH. Ça va mobiliser, et là ils sont nombreux, hein, depuis les usagers eux-mêmes, les familles, les assistantes sociales, les CCAS dans les communes, les assistantes sociales dans les CMP, dans les secteurs de psychiatrie, les services d'aide et d'accompagnement à la vie sociale, les SAMSA, bref, les associations tutélaires, les tuteurs, curateurs, etc. Tous ces gens-là accompagnent les personnes. Et puis ensuite, il y aura la mise en œuvre de ces soutiens, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent dans les services d'aide et d'accompagnement à domicile et qui potentiellement vont être amenées à apporter ce soutien. Et donc nous faisons également, parallèlement à ça, des actions de sensibilisation et de formation de ces services d'aide et d'accompagnement à domicile de façon à ce qu'ils puissent intervenir au mieux auprès des personnes concernées. Et que ce travail se fasse vraiment pour le bien de tous. C'est une grande avancée, nous en sommes très heureux et nous en attendons beaucoup.
Si on a des besoins dans notre famille auprès de nous, à qui s'adresser et comment faire ?
Je voudrais encourager vraiment toute personne qui vit cette situation de handicap et qui a besoin de soutien ou qui a besoin d'accéder à différentes prestations d'ailleurs. Je voudrais encourager tout le monde à faire la démarche vers la MDPH de façon précoce, le plus tôt possible. Concernant la prestation de compensation du handicap, il ne faut pas hésiter à faire la demande et à soigner sa demande. Et là, l'UNAFAM d'ailleurs est là pour aider à faire la demande, à remplir la demande, parce que c'est quand même quelque chose parfois d'un peu difficile. Mais il ne faut pas être réticent, il ne faut pas avoir peur d'aller à la MDPH. Au contraire, parce que c'est accéder d'abord à ses droits et c'est surtout accéder à des soutiens pour avancer dans la vie, pour mener une vie digne, pour soutenir également non seulement la personne, mais sa famille, c'est vraiment extrêmement important. Donc, la démarche vers la MDPH n'est absolument pas stigmatisante, tout au contraire. C'est un pas en avant. On parle aujourd'hui beaucoup en santé mentale de se rétablir, hein, c'est-à-dire de vivre avec les troubles psychiques de la meilleure manière possible. Eh bien, il n'y a pas de miracle, il faut des soutiens. Et ces soutiens, eh bien, on les trouve en particulier à la MDPH et entre autres avec la prestation de compensation du handicap. Donc surtout, surtout, aucune hésitation. Il faut faire la demande, il faut faire la démarche. Le plus tôt possible, c'est le mieux.